Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
Cela va faire plus d'un demi-siècle qu'il voyage. Il a visité plus d'une centaine de pays. Il aime tellement ça qu'il en a fait son métier. Pierre Josse a été rédacteur en chef du Guide du Routard pendant 39 ans. Dans ses guides, il a pu faire connaître au public des pays et des modes de vie, susciter le désir de s'y rendre. Mais ses guides lui ont laissé peu d'espace pour raconter le vécu personnel, les émotions singulières, les réflexions, les états d'âme. Alors Pierre Josse a eu envie de partager davantage. Il vient de publier « Chroniques vagabondes », petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires d'un routard aux éditions Hachette, un ouvrage dans lequel il raconte ses rencontres extraordinaires, ces moments où l'histoire s'est écrite devant ses yeux, ces instants où qu'il a vécu avec passion et les situations drôles voire grotesques dans lesquelles il s'est retrouvé. Il va partager quelques-uns de ses souvenirs avec nous puisqu'il est l'invité de notre deuxième heure. Et puis en fin d'émission, notre séquence L'Aventure en direct nous emmènera en Ouganda où nous tenterons de joindre la primatologue Sabrina Krief. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
Yeah! Yeah! Ladies and gentlemen, now we're gonna do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hands. Come on! Come on! Yeah! Stomp your feet. Jump up and down, do anything that you wanna do. Yeah. Yeah.
Et notre invité Pierre Josse me le montre, il a la chair de poule, l'effet escompté est vraiment obtenu. On sait combien la musique peut être évocatrice et nous replonger instantanément dans une période de notre vie, dans un état d'esprit. Et c'était le but de ce morceau, que peut-être tous les auditeurs n'ont pas forcément reconnu, hein, parce que c'est dans sa version très jeune.
On sent la juvénilité de la voix, c'est extraordinaire.
Moi, c'est qui
je me rappelle. Pardon ?
C'est qui ?
C'est Stevie Wonder.
Évidemment.
C'est son premier single. Et j'ai fait un premier voyage donc aux États-Unis en 1962 en bateau. Et en arrivant à New York, c'était le grand tube de l'été et ça m'a totalement électrisé. Et depuis, cet air m'a possédé. Quoi.
Ouais, c'est une musique, c'est une madeleine sonore pour
absolument,
vous.
Absolument. Fingertips.
Fingertips de Stevie Wonder, le premier. Vraiment, la voix est très juvénile, comme vous dites. Alors, vous le dites, c'est votre premier voyage fondateur, 1962, les États-Unis. Comment vous vous retrouvez embarqué, à monter dans ce
alors,
bateau
Alors, parlons du bouquin. C'est un hommage tardif à ma maman. Je l'en ai voulu très très longtemps, mais depuis le liquide amniotique à peu près.
Ah bon, à ce point ?
Et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, elle avait été un facteur important, entre autres, dans ma vocation de train de savate planétaire. Et notamment dans mon éducation pétrie de souvenirs de voyage, parce qu'elle-même avait été une routarde. Elle avait eu une des cartes en dessous du numéro 100 des auberges de jeunesse en 1936, vous savez, quand ça a été créé par Léo Lagrange. Et donc, toute mon enfance et mon adolescence a été bercée dans l'atmosphère des voyages. Et puis, elle a fait un truc génial. Alors là, j'en reste encore sur le cul aujourd'hui. Elle m'a pris par le callback, elle m'a mis sur un bateau, quand j'avais 17 ans et demi. Elle m'a dit « Go West, young man ». Et là, ça a été révélateur, fondateur, tellurique. Partir sur un bateau, 14 jours de traversée. Ouais. C'est-à-dire que si vous alliez aux États-Unis à l'époque, il fallait déjà un mois de voyage.
Ouais.
Voilà.
C'était le low cost à l'époque.
C'était le low cost, ça coûtait 3 ou 4 fois moins cher que l'avion.
Ouais.
Et donc, on se retrouvait sur une espèce de cargo transformé en bateau charter, en quelque sorte, à peu près 500 étudiants. J'étais le plus jeune.
Ouais.
J'avais qu'une seule trouille d'ailleurs, c'est qu'on fasse naufrage et qu'on aborde une île déserte, j'aurais été croqué le premier, étant le plus tendre, le
plus jeune. Le sort tomba sur le plus jeune,
voilà.
Évidemment.
Et donc, voilà, découvrir New York. Et alors, encore merci au capitaine. Parce que on était arrivé en avance, on devait arriver de nuit. Mmh. Et donc, il a ralenti la marche du bateau pour qu'on arrive à l'aube. Et là, faut se rappeler que dans les années 60, c'était le New York de Jack London, des grands découvreurs, etc. C'était, il y avait encore les pontons vermoulus, il y avait pas Battery Park, il y avait pas les Twin Towers. Enfin, c'était assez incroyable. Et donc là, de voir les vieux gratte-ciel traditionnels, la Crystal Tower, l'Empire State Building se détacher dans les brumes matinales avec le bruit des sirènes et encore les grues qui marchaient. Il y avait encore énormément de dockers, etc. Donc là, c'était allez, on va le dire, Elia Kazan, dans America, America. Bon, j'ai évité quand même Ellis Island, qui venait de fermer d'ailleurs. Hein, je veux dire, il y a quand même des télescopages comme ça. Et donc, découverte de l'Amérique avec beaucoup d'émotion dans une mentalité d'immigrant.
Et ben voilà, c'est le voyage fondateur. À partir de là, vous n'allez plus arrêter de voyager de toute votre existence.
Je suis tombé dedans comme Obélix et ça, j'en suis pas sorti.
Et alors, un peu plus tard, en 1978, un autre tournant dans votre vie, vous êtes embauché pour devenir correcteur. Au départ, correcteur du guide du routard, qui était né quelques années auparavant. Mais très rapidement, vous y allez un peu de vos anecdotes. Vous ne vous contentez pas de corriger les fautes d'orthographe.
En fait, bon, j'ai eu plusieurs voyages, parce que j'ai fait un voyage comme décorateur, parce que j'ai fait une école d'art graphiste qui était à Corvisart, dans le 13e arrondissement. Ensuite, j'ai été instituteur dans les prisons. Bon, là, je ne suis pas entendu avec l'établissement pénitentiaire, pour divergence grave, j'ai été viré. Ensuite,
ce qui vous permet de dire à vos amis que vous avez fait 2 ans de prison, à l'étonnement général.
Voilà, à l'étonnement général, et je suis assez ravi de l'effet que ça produit dans les dîners mondains. Ensuite, j'ai été ouvrier rotativiste pendant 4 ans, dans la plus prestigieuse imprimerie française, qui était Dreger, la Porte d'Orléans, à Montrouge. Et puis là, je me suis fait virer aussi, mais de façon honorable, on va dire, c'était licencié économique. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un premier ministre de droite qui était absolument génial, qui s'appelait Raymond Barre et qui avait inventé les stages bars. On avait le droit de changer de métier en étant payé 110% de son salaire. Alors donc j'ai choisi d'être lecteur, correcteur, préparateur de copies à la fameuse école Estienne. Et puis là, j'ai bourlingué un peu dans la presse, Le Monde, L'Humanité, Le Matin de Paris et tout. Puis travailler nuit, c'est quand même fatigant. Et donc j'ai voulu travailler sur des sujets qui m'intéressaient 2 jours. Et là, j'ai choisi de travailler au Guide Bleu. Voilà, tout simplement parce que j'allais corriger des récits de voyage. C'était quand même génial. Et pendant 1 an, j'ai corrigé des guides bleus, etc. Et puis, j'ai rencontré le patron du Philippe Glohagen, le patron du guide du routard, qui on m'avait confié les quelques ouvrages qui commençaient à se développer. Et il était très content de moi. Voilà, il m'a dit, écoutez, je suis content de votre implication, vous prenez des initiatives, continuez, c'est génial. Vous vous identifiez au routard. Et j'ai dit, oui, mais je suis quand même malheureux. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Parce que j'en ai marre de voyager par procuration. J'aimerais vous faire autre chose que corriger. Il n'y aurait pas un petit voyage à faire quelque part? Et il est tombé dans mes bras en disant, ça tombe bien, je cherchais quelqu'un. Ouais. Et voilà, 39 ans d'histoire d'amour presque.
Oui, vous l'avez un petit peu, comment dire, vous avez trouvé les bons arguments aussi, puisque vous racontez dans votre livre que vous êtes parti en Grèce alors qu'on ne vous avait rien demandé, avec un routard sous le bras, et vous avez corrigé, annoté, vous l'avez entièrement réécrit, remis au goût du jour.
Oui, parce que, bon, ça, je veux dire, bon... j'aime bien la Grèce, mais leur monument, il tombe en ruine, quand même.
On vous avait pas prévenu.
Il y a un moment donné, bon, c'est pas que ça soit lassant, mais on a envie de faire autre chose. Et puis, j'avais ce guide dans les mains, et je pouvais pas rester indifférent aux quelques erreurs qui commençaient, les adresses un peu obsolètes, les points de vue avec lesquels je n'étais pas d'accord. Donc, j'ai annoté totalement l'ouvrage, et je l'ai envoyé à Philippe, et 3 jours après, j'ai reçu un chèque dans ma boîte aux lettres. Et alors là, j'étais furieux parce que j'avais jamais demandé à être payé.
Oui.
Et donc, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un mercenaire. J'ai fait ça gracieusement parce que je me sens concerné. Je me identifie au routard. Et il m'a dit un truc terrible. Il savait que j'étais marxiste un petit peu sur les bords. Il m'a dit, Marx a dit un jour, toute peine mérite salaire. Il avait gagné.
Il vous a convaincu. Et puis ensuite, il vous a embauché. Et là, il vous a payé pendant 39 ans pour que vous rédigiez ces guides du routard avec d'autres. Mais vous étiez le rédacteur.
Oui, on est une grosse équipe.
Ouais, vous étiez le rédacteur en chef. Alors, comme je le disais, la rédaction de ces guides, ça ne vous permet pas de tout dire. Avec ce livre-là, Chronique Vagabonde, paru chez Hachette, vous allez pouvoir partager vos passions les plus secrètes, les plus intimes, vous étendre sur les sujets qui vous tiennent le plus à cœur, dont les pubs irlandais.
Bon, et bien ici, c'est le centre-ville de Galway. Et Galway, c'est une des villes les plus animées d'Irlande, avec Dublin, tout simplement parce qu'il y a énormément de jeunes, beaucoup d'étudiants, et que les étudiants, ils sortent. Donc ils vont dans les pubs. Alors moi, je vais faire un petit tour dans le centre. Mais je pense que de toute façon, il y aura un point de passage obligé ce soir. Ça va être la tournée des pubs de Galway.
Ça, c'était pour vous plonger dans l'ambiance, une ambiance que vous aimez tant.
J'y étais encore il y a quelques mois, donc merci de rafraîchir ma mémoire.
Oui, alors c'était Antoine de Maximy, hein, j'irai dormir chez vous
dans un
pub Galway. Vous voyez, on a bien tapé. Dites-nous ce que vous trouvez. C'est une vraie passion, hein, l'Irlande, au-delà des pubs irlandais. Et puis les pubs irlandais.
C'est plus qu'une passion, je me suis aperçu, c'est une névrose. Quoi. Alors le pub, alors pourquoi le pub? Parce que ça a une signification sociale et politique. Sociale, humaine, culturelle et politique. C'est là que se concentre toute la vie culturelle, toute la vie du peuple irlandais, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, depuis que le premier pub a existé. C'est là qu'a été véhiculée l'histoire, c'est là qu'a été véhiculée les luttes, c'est là que se sont rencontrés les gens pour comploter. Voilà. Par exemple, il y avait un pub à Dublin qu'on appelait Parliament Pub. C'est là que se réunissait Wolfstone avec les républicains dans les années à la fin du 18e siècle pour comploter contre l'Angleterre. C'est là que on chantait. Ouais. Alors c'est incroyable. Il y a une spontanéité vocale et musicale chez les Irlandais telle que, par exemple, un événement arrive. Par exemple, il y a eu une évasion spectaculaire en 1971 de la prison de Mountjoy à Dublin par hélicoptère. Bon, eh bien, le soir même, quelqu'un commençait à fredonner un refrain avec des paroles repris en chœur. Je vous mens pas. Repris en chœur par le pub, repris en chœur par l'ensemble des pubs de Dublin. Trois jours après, c'était numéro un au hit parade. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment la concentration culturelle essentielle, indispensable pour rencontrer les Irlandais. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Chez nous, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des amis que nous n'avons pas encore rencontrés ».
Ah, ça vous va bien cette devise. On comprend que vous ayez cette attirance pour les pubs irlandais. Allez, on quitte ces pubs irlandais et on part pour un tour du monde au gré de vos souvenirs de vagabondage. Pierre Josse, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je déambule morose.
C'était Paradis perdu, Christine and the Queen sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Premier pas d'homme libre, les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris « Liberté, liberté ». 15h15, heure de Paris, Nelson Mandela vient de quitter sa prison. 27 années de sa vie se sont écoulées, 27 années passées derrière les barreaux. En signe de victoire, Nelson Mandela lève le poing. L'homme, le symbole de la lutte du peuple noir, est ovationné.
À mon tour d'avoir la chair de poule, libération de Nelson Mandela, 11 février 1990. Pierre Josse, parmi vos nombreux voyages, vous avez aussi parfois été témoin de scènes historiques où vous avez côtoyé des acteurs de l'histoire, et notamment en Afrique du Sud. Vous avez rencontré le dernier geôlier de Nelson Mandela. C'est une rencontre qui vous a marqué.
Oui, alors ce qui m'a surtout marqué, c'est que j'ai été militant anti-apartheid. Et oui. Pendant des années, et j'ai empêché la vente des fameuses oranges Outspan, vous savez, dans les supermarchés. Bon, c'était une manière de boycott économique. D'ailleurs, ça a marché, puisque c'est ça qui a mis à genoux l'Afrique du Sud. Donc, me retrouver à faire un guide du routard sur l'Afrique du Sud, c'était aussi retrouver mon passé de militant anti-apartheid. C'était retrouver tous les héros qui avaient meublé mon imaginaire et mon activité. Je veux dire, et rencontrer Christo Brandt, qui a été effectivement pendant 14 ans le dernier, gardien de Mandela. Ça a été, en plus, le dernier jour où je quittais le Cap, bon, tout à fait par hasard, il se trouvait que mon chauffeur guide connaissait Christo Brandt, et c'est lui qui me l'a fait rencontrer. On a parlé pendant 20 minutes, 25 minutes sur le trottoir. C'était un moment extrêmement émouvant, et ça venait en plus de toutes les autres personnes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire, en fait, en 76, comme vous le savez, il y a eu un massacre à Soweto, hein, et le premier gamin qui avait 14 ou 15 ans, qui s'appelait Peterson, qui a été tué, son affiche, on voyait un grand étudiant porter le corps dans les bras, et à côté une petite fille qui hurlait sa douleur accrochée à la chemise du petit garçon, eh bien, c'était sa sœur. Ouais. Et lorsque j'ai visité le musée de l'apartheid à Johannesburg, on me présente une dame, on me dit « c'est la sœur du petit Peterson ». C'est-à-dire que cette petite fille qui a été pendant des années sur mon mur, elle était là vivante devant moi. Et partout, cette présence s'est manifestée. Lorsque j'ai visité le cimetière de Soweto, qui est un cimetière très dramatique, très, très poignant, qui est presque abandonné. Je veux dire, c'est presque les scènes de l'épouvantail. Vous avez des rouleaux de buissons qui roulent avec le vent et des papiers gras, etc. Je me suis incliné devant la tombe de Joe Slovo, qui était le secrétaire général de l'ANC, et puis tant d'autres militants qui ont été ou fusillés ou pendus. Il y avait une dose d'émotion pendant tout le voyage qui s'est concrétisée par cette rencontre sur le trottoir, quoi. Ouais. C'était mon bâton de maréchal, quoi. C'était un moment incroyablement affectueux et affectif.
Alors, Christo Brandt, le dernier gardien de Nelson Mandela, l'histoire est particulièrement touchante parce que il a conversé avec Nelson Mandela pendant les 14 années où
il est arrivé pétri de préjugés,
voilà,
raciste.
Il était raciste.
Il était persuadé qu'il allait broyer ces putains de terroriste, il était non, l'humanité, le rapport que Mandela entretenait avec les gens faisait que tous les gens se transformaient à son contact. Ouais. Et dans les dernières années, il est devenu son ami, et plusieurs fois il a risqué d'être licencié du pénitencier parce que il avait outrepassé ses droits, et il avait fait même des choses graves qu'il a interdit de faire, dans communication, passer du courrier, etc.
Ils sont restés amis, ils se sont côtoyés jusqu'à la mort.
Il était même au premier rang lorsqu'il a été élu président en 94, il était invité d'honneur.
La force de Nelson Mandela d'avoir su le convaincre alors qu'il était son prisonnier. On comprend que ce soit des rencontres qui bouleversent d'avoir rencontré cet homme. Vous avez été à plusieurs reprises comme ça au cœur de l'action, sans parfois forcément le chercher. Plus récemment, le 21 janvier 2000, en Équateur, vous assistez à un coup d'État raconter.
Ah oui, là c'est ce que j'appelle le pot du routard. C'est-à-dire que je débarque à Quito et quelques heures auparavant, les Indiens, la Confédération des Indiennes de l'Équateur, décrète une grève générale. Et le colonel Gutiérrez, qui faisait partie de la fraction de gauche de l'armée équatorienne, qui avait une tradition quand même démocratique, prend le pouvoir. Donc, je veux dire, et le soir même, je suis à la manif, bon, pour soutenir Gutiérrez, et puis évidemment, j'en prends plein la gueule, les lacrymos, la bastonnade, etc., etc. Et donc, je rentre à l'hôtel complètement crevé, gerbant, les yeux piquants des gaz lacrymos. Je prends ma douche, du citron dans les yeux pour m'alléger la douleur. Je prends un coca, je me mets à poil sur le lit et je regarde CNN. Et tout à coup, la manif violente qui empêchait d'aller jusqu'à la Plaza de Armas, en fait, le peuple a réussi à franchir l'obstacle et il est là devant le palais présidentiel, réclamant le Gutiérrez, réclamant les putschistes, hurlant sa joie, etc. Et il y avait presque même une fraternisation entre la police et les manifestants. Et je suis là comme un con sur mon lit en disant « Attends, l'histoire se déroule à 500 mètres de chez toi. »
Et je regarde la télé.
Et je regarde la télé. Hop, je me suis rhabillé. Et puis j'ai passé la nuit avec eux. Il y avait des braseros où ils refaisaient le monde. Ça a été... Alors évidemment, le lendemain, j'étais un peu crevé pour écrire le guide, mais complètement soulevé, porté par l'événement. Et alors là, quand j'ai visité le musée national d'art, il y avait Guyasamine, qui est un des plus grands peintres équatoriens, de gauche évidemment, même d'extrême gauche, et je décrivais ses tableaux. Voyez, et en même temps montait une sourde rumeur, le chef des Indiens faisait un meeting dans une grande salle du musée. Et tout à coup, il y a eu un décalage complet entre ce que je faisais et ce que j'entendais. Donc l'encre ne sortait même plus du stylo. Je dis ok, hop, on arrête, tu vas au meeting. En plus, tu reviendras regarder tes toiles après. Et là, tout le voyage a été porté par cette rencontre avec l'histoire, avec ce putsch qui s'est très très bien passé, puisque les putschs, contrairement à la Bolivie, il y avait très très peu de morts. Ça se passe toujours relativement bien. Et j'ai eu un chauffeur équatorien absolument extraordinaire qui m'a fait traverser les barrages, qui m'a fait franchir les obstacles les plus incroyables. J'ai dû perdre 80 ou 85% de mon efficacité, ce qui était remarquable dans une situation de crise et de putsch. Bon, c'est un de mes souvenirs les plus marquants d'Amérique du Sud, effectivement.
Allez, un autre continent et un autre souvenir marquant. On picore, évidemment, parce que c'est le but de votre livre, Chronique Vagabonde.
Bah oui,
on passe
En fait, c'est les coulisses. Ouais. C'est les coulisses du routard. Ouais. C'est tout ce que j'ai pas pu raconter. Grosso modo, un chiffre arbitraire, 30% des expériences que je vis et des renseignements que je récolte vont dans le guide du routard. Sinon, le reste, il est perdu, quoi. Ouais. Ou je le garde pour moi, ou alors je fais des bonnes émissions de radio. Ou je peux...
Et on vous en remercie.
Ouais. Et c'est l'occasion de m'exprimer, mais c'est un peu une perte, quoi. Ouais. Et j'ai décidé cette année, effectivement, qu'il était temps de raconter tout ça, de raconter ces coulisses, de raconter ce off. Hein, c'est Avignon en ce moment, c'est le off, quoi. Et pour simplement voir dans quel contexte s'écrit un guide, qu'est-ce que peut être la vie d'un enquêteur, d'un écrivain voyageur.
Le livre est relativement épais, hein. Il y a énormément de souvenirs très précis dedans. Est-ce que vous aviez pris énormément de notes ou est-ce que tout était dans votre tête?
Ah oui, alors là,
c'est 40 années
c'est
de voyage.
Alors oui, c'est assez étonnant. D'abord, il y a eu un mûrissement. C'est-à-dire en 2017, je me suis dit, ouh là là, c'est le centenaire de beaucoup d'événements auxquels j'ai envie de rendre hommage. Hein, alors on peut en parler, la révolution février, octobre 17, le chemin des dames, la déclaration Balfour. Il y a eu énormément d'événements historiques qui ont marqué le siècle et encore aujourd'hui, voyez, dont on paye aujourd'hui les conséquences. Et donc, je me suis dit, c'est là qu'il faut écrire. Je me suis mis à côté d'une 1 mètre cube à peu près de carnet de voyage et de carnet de route. Et croyez-le pas ou pas, et j'en ai ouvert aucun.
Tout était dans la tête.
Tout était dans la tête. C'était
quelle
dire,
mémoire
en fait, la mémoire, si vous voulez, elle est facile lorsqu'elle est liée à l'affectif, lorsqu'elle est liée à l'émotion. C'est-à-dire que ma maman, qui avait parfois raison, pas toujours tort, avait dit, je crois qu'elle tenait ça de Jérôme de Bellay ou de Ronsard. Elle disait, tout ce qui se pense clairement s'énonce clairement. Ouais. Et en fait, quand c'est affectif et émotionnel, les mots courent tout seuls. Je n'ai jamais connu l'angoisse de la page blanche. Ça a été un bonheur total, un ravissement de jeter sur le papier comme ça. Et après, il fallait évidemment travailler un peu le style, voyez. Mais ça n'a jamais été un effort dramatique, héroïque. C'est pas à peine que je joue les héros. Ça a été un moment de plaisir total.
Et les mots pour le dire viennent aisément. Alors, autre rencontre qui vous a marqué, que vous rapportez dans vos chroniques vagabondes, c'est celle avec Aung San Suu Kyi en Birmanie. Elle a été pendant longtemps, on s'en souvient, assignée à résidence.
Assignée à résidence. Bon, là encore, comme disait André Breton, les hasards objectifs, quoi. Je veux dire, c'est ce pot que j'ai à chaque fois d'arriver. Alors, il y a aussi une façon d'interpréter les événements historiques. Il y en a qui peuvent passer à côté. Hein. C'est pas du mépris de ma part, mais parce que ils sont pas concernés, c'est pas leur truc et tout. Et donc là, exceptionnellement, cet été-là, la junte militaire avait autorisé Aung San Suu Kyi de s'adresser à son peuple, à son parti, le parti de la démocratie, de la Ligue démocratique, une demi-heure le week-end, le samedi, de 16h à 16h30, et une demi-heure le dimanche, de 16h à 16h30. Donc elle montait sur une échelle, et depuis le portail, elle s'adressait là, 2, 3000, 4000, 5000 personnes, mélange d'ouvriers, de bonzes, de petits vendeurs, de chômeurs, de retraités, etc., dans une ferveur absolument incroyable. Et il y avait cette femme qui était vraiment d'une beauté rare, qui illuminait, qui émanait, comme on peut dire, qui parlait de façon posée et qui parlait à son peuple. C'était pas déclamatoire, gna gna gna, hop, le grand dirigeant bolchevique. Non, non, pas du tout. Elle savait s'adresser à chaque couche de la population. Et moi, qui ne connaissait pas le birman, je pouvais presque à la longue deviner de quoi elle parlait, et puis elle avait le bon goût aussi et l'élégance de résumer 5 minutes à la fin en anglais pour nous, mes amis étrangers, voilà ce que j'ai dit à mon peuple.
Allez, je vous propose de l'écouter, la voix de Aung San Suu Kyi s'exprimant sur ses conditions de vie assignées à résidence. Elle a été libérée en 2010.
My home was in some ways my prison.
Ma maison était en quelque sorte ma prison. Je ne ressentais pas le besoin de sortir. J'étais seule, mais je ne me sentais pas isolée. Je ne me sentais pas étouffée. Absolument pas. Je me suis adaptée très vite. Trop vite, peut-être. Je ne dirais pas que j'ai souffert. C'était juste une vie particulière.
Extrait du rêve birman, un documentaire de Manon Loiseau diffusé sur France 2. Vous le dites à peu près dans ces termes, hein, Pierre Joss, c'est un coup de foudre, véritable coup de foudre que vous avez eu pour Aung San Suu Kyi.
Je suis tombé amoureux d'elle, quoi. C'était... Ouais. En plus, j'étais devant, j'étais au premier rang, je pouvais recevoir les postillons. Vous voyez ce que je veux dire, c'est totalement... Elle émanait, quoi. Je veux dire, j'étais dans... Vous savez, c'est ces moments délicieux où... dans le voyage, on n'est plus étranger à ce qu'on vit, on n'est plus étranger aux conditions économiques, sociales, culturelles dans lesquelles on évolue. On est dedans, c'est-à-dire, sans démagogie, on n'est pas le peuple non plus, mais on se sent totalement en fusion avec ce qui se passe. On est témoin de l'histoire. On accompagne un petit morceau de l'histoire, et c'est...
Alors, témoin de l'histoire, je me suis posé la question en vous lisant, on sent, vous le dites régulièrement, vous êtes militant, vous êtes pas du tout insensible à la géopolitique des pays que vous traversez. Pourquoi vous avez écrit des guides? Pourquoi vous n'avez pas été grand reporter?
Alors là, vous mettez le doigt sur une plaie vive et purulente. Oui, ça a été ma grande frustration, mais que j'ai maîtrisée. Ouais. Effectivement... mes idoles, c'est Marc Ravetz, c'est Sorcha Landon, c'est tous ces grands journalistes qui ont couvert les événements d'Orient, quoi, la guerre de l'Irak, la guerre du Liban, le conflit israélo-palestinien, et irlandais également dans le cas de Sorcha Landon. Et donc, ma grande frustration, c'est effectivement de n'avoir pas pu travailler à fond la question, c'est-à-dire en fait de rester à l'écume, de rester à la surface, parce que en fait un guide de voyage c'est quand même un format étriqué, c'est un format limité, voilà. Et donc et d'ailleurs je sais pas si vous l'avez lu, je me suis pris pour Sorge ou Marc à un moment donné, parce que je refaisais le guide sur Israël, je remontais sur Tel Aviv, et un peu avant d'arriver à Tel Aviv j'ai vu une pancarte Gaza 7,8 km. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous auriez craqué. Tiens, être si proche de Gaza, c'est idiot, quoi. Donc, j'ai tourné à gauche. Bah ouais, j'ai tourné à gauche. Et c'était le moment de la première intifada. Donc, la guerre des pierres. Donc, il n'y avait pas risque de mourir. Bon, ce qui m'est arrivé, c'est que, effectivement, je suis tombé sur une barricade en flammes avec une centaine de jeunes Palestiniens qui étaient derrière. Ils ont bombardé ma bagnole à coups de pavé. Le pare-brise est parti en éclats. J'ai eu à peu près une vingtaine de points d'impact sur le truc. Et puis, je suis parti la queue basse. Je dis, attends, t'es pas grand reporter ni pour Le Monde ni pour Libé. Reprends ta place. Bon, et là, c'est la seule manière que j'ai eue à l'époque de lutter contre cette frustration. Et après coup, ça a été un très très beau souvenir. Ouais. Bon, il a fallu expliquer à Monsieur Loca Tel Aviv, à qui j'avais loué cette voiture, ce qui m'était arrivé. Bon, j'en suis sorti.
Vous avez quand même un peu goûté aux médias sans être grand reporter, ne serait-ce que sur cette antenne, sur France Inter, dans les années 80, dans l'émission de Jacques Pradel, une émission qui s'appelait
alors,
Virus.
C'était pas les années 80, c'était au début des années 90. Ouais. Ça s'appelait les virus ou adrénaline, je me rappelle plus du titre exact. Et avec Philippe Gloguen, on a été salariés. Ouais. Pendant 2 ans, on a animé la tranche tourisme voyage tous les dimanches après-midi.
Voilà. Donc c'est un peu le retour au bercail en fait.
Oui, en fait. Et là, ça a été une école. Une école de radio formidable, parce que Jacques Pradel, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait animer avec empathie ses émissions. Et puis surtout, alors là, j'ai rencontré des dizaines de personnages emblématiques que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer dans la vie courante. Quoi. Je veux dire, il y a des personnages, Théodore Monod, par exemple, la première fois que je l'ai vu. Bon, immédiatement, on s'est mis d'accord sur... je faisais partie de l'association PADAC. Vous savez, contre le Paris-Dakar qui détruisait les pistes et qui tuait beaucoup d'enfants africains. Alors lui également, donc on a dégorgé, on a déblatéré, on a injurié à l'époque les dirigeants du Paris-Dakar. Et on s'est retrouvés tout de suite en terrain commun en quelques minutes. Et c'est ces moments de grâce, ces moments voluptueux que je me remémore maintenant, d'il y a maintenant plus de 25 ans.
On poursuit nos aventures avec le train de savate planétaire, comme il aime à se qualifié lui-même, Pierre Josse, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart.
In my heart, in this moment. Daniel Fievé, le temps d'un bivouac.
Michael Kiwanuka, c'était Cold Little Earth sur France Inter, le temps d'un bivouac. Pierre Josse, auteur de chroniques vagabondes, vous reconnaissez le son de l'instrument qu'on entend
actuellement ? Absolument, c'est ce merveilleux balafon. Et je jurerais pas que c'est Mama Konaté, mais enfin, c'est un de ses épigones.
Mama Konaté, c'est un des grands noms, un des grands joueurs. Bah,
c'était le plus grand joueur dans les années 70, 80, 90. C'était le plus grand joueur de balafon du Burkina Faso.
Et évidemment, si on en parle, c'est que vous l'avez rencontré, ce monsieur. Dans quelles circonstances ?
Alors, je l'ai rencontré grâce à Bernard Kussig, un vieux copain à moi de Marseille, qui organisait les rencontres méditerranéennes et les musiques du monde. Et il m'avait dit, il apprend que je vais à Bobo du Lasso, qui est, comme vous le savez, la deuxième grande ville du Burkina. Il me dit, écoute, si tu vas à Bobo, nécessairement, tu vas à Bolo Makoté, qui est le quartier des balafonistes, tu demandes Mama Konaté. Et je dis, ben c'est où, c'est quelle adresse? Écoute, tu suis la musique. Tu entends des premières notes de musique, un peu plus belles que les autres. Tu suis, tu vois une case africaine, tu rentres dedans et tu trouves Mama. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, ça a été une rencontre pareille. Ça a été une rencontre fondatrice en termes de musical. Donc, parce que je connaissais peu la musique africaine. Et il était en train de répéter avec son groupe. Il avait trois sticks dans la tronche, ça fumait une superbe ghanéenne, ça je m'en rappellerai toute ma vie. Et
vous ne mettez pas les plans pour la superbe ghanéenne dans les guides du routard, hein.
On en parlait, mais de façon rigolote. Oui. On a changé de fusée d'épaule très très rapidement quand on s'est aperçu que ça posait des problèmes sur le plan juridique. Bon, il y a eu une période un petit peu ultra gauche comme ça de chez nous, ultra un peu radical. Bon, et donc.
Et alors cette soirée avec Mama Konaté.
Avec Mama Konaté. Et puis tout de suite j'ai vu que il fallait pas que je sois seulement de passage. Donc ce que j'ai fait, j'ai loué une case. J'ai loué une case dans la cour africaine de Mama Konaté. J'ai laissé tomber mon hôtel climatisé pendant 3 nuits et j'ai dormi là-bas. Je travaillais la journée évidemment et je revenais le soir. Il était toujours là à s'entraîner, à jouer pour le plaisir avec ses potes et je m'endormais. Alors on dormait pas évidemment dans la case parce qu'il faisait trop chaud. On dormait dehors. Moi je dormais sous un avocatier. Et le matin du quatrième jour, j'ai été réveillé délicieusement par un avocat mûr qui m'est tombé sur la tronche. Et je me suis dit, ah, c'est le moment de partir. Et je m'étais endormi la veille, pareil, de façon magique. Vous voyez, c'est extraordinaire lorsqu'on commence à rêver, qu'on sombre dans le sommeil avec les notes de musique qui commencent à vous remplir totalement. Je me rappelle plus de mes rêves, mais ils ont été absolument délicieux.
Tel Newton et sa pomme, vous, c'est l'avocat qui vous a fait gamberger. Dans votre ouvrage, vous avez dressé une liste des différents profils de routards. Celui-là, vous le rangeriez dans quelle catégorie ?
C'est combien la statue, là ? Le masque ?
30 000 francs.
Combien ?
30 000 francs.
Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Bah, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien, la statue ?
J'ai dit 30 000.
Oh, dis, tu nous vois venir, là. Ça vaut 15 000 francs, ça ?
Non, 30 000.
20 000 francs ?
Non, 30 000.
25 000 ?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Un extrait des Bronzés où Christian Clavier ne négocie pas aussi bien qu'il prétend savoir le faire. Vous avez dans votre livre...
Je me permets de dire surtout qu'il n'a rien compris au marchandage. Le marchandage, c'est un rapport qu'on construit avec l'autre. C'est un rapport ludique, c'est un rapport de... Pas de domination, mais c'est un jeu très subtil où on cède du terrain, on revient en arrière, on plaisante et puis tout à coup on dit, bon, on peut pas négocier. Allez, on parle de nos enfants. Voyez. Et là, il va trop vite. Il faut pour la statue africaine qu'il convoitait, c'est 2 heures au minimum. Voyez, donc il a rien compris.
le spécialiste qui parle. Dans votre ouvrage, vous vous amusez à les classifier, ces routards, justement.
Oui, de façon un peu arbitraire.
Oui, un peu arbitraire, mais c'est très amusant. Parce que même, on pourrait y voir certaines facettes. On se dit, tiens, moi, dans tel pays, peut-être que j'étais un peu comme ce routard caricatural qu'il décrit. Alors, il y a le routard connecté. Vous parlez du routard connecté, c'est les nouveaux routards.
Ce que je ne suis pas. Ouais. Puisque j'appartiens à cette vieille culture du vieux routard qui n'avait que ses légendes, ses mythes et son couteau, hein, quand il partait en voyage. Et mes deux garçons, par exemple, 22 et 24 ans, alors sont totalement connectés. Ils réservent leur hôtel, leur restaurant par Internet. Ils jouent avec une maîtrise incroyable avec leurs iPhones et tout. Moi, je suis parfaitement incapable. Je ne connais pas 2% des possibilités. Mais je respecte. C'est une nouvelle façon de voyager.
Le routard donneur de leçons.
Alors, celui-là, il est insupportable. C'est-à-dire, en fait, il n'écoute pas l'autre. Il arrive, il a la science infuse. Il y a un guide qui va dire cette toile date de 1527, non, excusez-moi, c'est 1528. Enfin bon, à une année près, il va faire chier le monde.
On l'a
tous croisé.
Le routard ultra-gauche.
Alors, je l'aime bien. Ouais. Alors, l'ultra-gauche, c'est le pur et dur. C'est-à-dire, vraiment, c'est le janséniste du voyage. Je me rappellerai toujours, quand je suis arrivé à Lima, j'avais un peu de courrier et des lettres d'engueulade qui disaient « À Cusco, rien ne va plus pour vous. Vous vous êtes recentré. Pire, vous êtes devenu des bourgeois. Vous avez trahi votre classe. Tous les restos que vous indiquez sont 3 fois plus chers que mes restos à moi. Et en fait, il indiquait des picanderias, c'est-à-dire des coopératives ouvrières de mineurs qui n'ouvraient qu'à 15h et qui n'offraient qu'un brouet sordide dans son jus un peu grassouillet pour 3 francs 6 sous. Allez, on va prendre pour $1, par exemple. Et les restos que j'indiquais, ils valaient $2 ou $3. Donc, si vous voulez, il valait effectivement 2 ou 3 fois moins cher que ceux qu'on indiquait. Mais il faut relativiser, là. Vous voyez, j'ai un peu d'affection pour lui, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Ouais.
Allez, rapidement, parce qu'on est en train de déborder. C'est quoi le routard idéal, alors, Pierre Josse?
Le routard idéal, d'abord, il n'existe pas. Voilà, bon. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va laisser ses préjugés et ses clichés à la frontière. C'est quelqu'un qui va montrer une grande disponibilité par rapport aux cultures des autres, qui va essayer de comprendre, même s'il a des réticences, mais ça, même si ça ne correspond pas à son état d'esprit ou à son idéologie, il va quand même chercher à percer le mystère. Il va chercher à comprendre le rapport que les gens entretiennent avec leurs fêtes. Même si c'est des fêtes cruelles, qu'est-ce qu'il y a derrière, historiquement? Pourquoi, voyez? Et quand il a compris tout ça, en fait, ça lui permet de jouer le jeu, de rentrer un peu plus en osmose, en symbiose avec les gens, de s'identifier un peu plus à la culture qu'il a affrontée. Et puis, ça va être un homme heureux. Il va pas être frustré, il va pas être aigri, il va pas être vindicatif, il va pas râler, voyez.
Merci Pierre Josse. Je rappelle le titre de votre livre, Chronique vagabonde chez Hachette. Dans un instant, on file en Ouganda. Nous avons rendez-vous avec Sabrina Krief, primatologue qui observe les chimpanzés dans le parc de Kibale. Vous écoutez Le Temps d'un bivouac sur France Inter.
Un aquaponiste, un modeste guitariste qui n'est jamais dans le ton. À quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries tristes qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon? Un aquaponiste, un peu trop idéaliste, qui répète sous tous les tons, à quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries tristes, qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon? Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste, qui dit à tort à raison,
À quoi bon ?
C'était l'aquabonis Jane Birkin sur France Inter, le temps d'un bivouac. La programmation musicale est signée Djoubaka et à 17h51, on met le cap sur l'Ouganda.
Allô,
it's Harriet.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, mais c'est le satellite qui l'attend.
Oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour Sabrina Krief.
Bonsoir Daniel.
Vous êtes primatologue et vous vous trouvez actuellement quelque part en Ouganda. Où exactement?
Alors, je me trouve dans la station de recherche de Sébitoli, qui est donc la station qu'on a construite il y a quelques années et qui se trouve au cœur du parc national de Kibale.
Donc là, vous venez tout juste de rentrer de la forêt où vous avez fait vos observations. Décrivez-nous ce lieu et cette journée que vous venez de passer dans votre parc.
Alors, donc en fait, on se trouve sur les contreforts du Rwenzori, ces montagnes qu'on appelle les Monts de la Lune, donc en altitude, hein, autour de 1400-1500 mètres. Donc on part le matin très tôt, on se réveille vers 4h30, on part à 5h30 avec nos lampes frontales, nos fourrures polaires, parce qu'il fait un peu frais avant que le jour se lève. Et puis, bah, on se dirige vers les nids des chimpanzés qu'on a laissés la veille soir pour être là avant leur réveil. Et donc, on arrive au pied de leurs grands arbres, en général, on attend un quart d'heure, 20 minutes, ils se réveillent vers 6h30, 7h. Là, en même temps, toute la forêt s'éveille. Donc, on est dans un endroit où il y a la plus forte biomasse de primates au monde, donc 10 espèces de primates différentes. Et donc, toute la forêt se réveille en même temps que les chimpanzés.
Oui, alors,
pour nous, en fait, c'est le moment où il faut récupérer des échantillons, de l'urine, des selles. Donc, là, c'est l'activité maximale pour pouvoir évaluer leur état de santé.
Alors, tel que vous décrivez ce lieu, ça a l'air effectivement très paisible. On vous imagine dans cette forêt en train d'observer. Vous avez parlé de ces nids hein, de chimpanzés, mais il y a quelque chose qui vous inquiète et qui vous alerte actuellement. Vous avez découvert des singes dans un état physique un peu inquiétant.
Oui, ben en fait, on se trouve dans un endroit fortement anthropisé malgré tout, hein, même si ce parc est tout à fait extraordinaire. À la frontière du parc, il y a beaucoup de plantations de thé, d'eucalyptus, des plantations de maïs et aussi du braconnage. Donc il y a deux choses qui nous inquiètent plus particulièrement, c'est donc ce braconnage et le fait que les fermiers et les plantations de thé utilisent des herbicides et des pesticides. Et donc depuis quelques années qu'on observe ces 80 chimpanzés de Sébitoli, on s'est rendu compte que près d'un quart d'entre eux avaient des malformations faciales. Mmh. Et on s'interroge en fait sur les raisons de ces malformations et nos analyses ont montré qu'il y a donc des pesticides et des herbicides avec des doses largement supérieures à celles autorisées. Et donc voilà, on est en train d'explorer cette piste. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de trouver des solutions à cette pollution environnementale, en plus donc du braconnage qui touche fortement les chimpanzés. En fait, là, la semaine dernière, j'ai eu la visite de mon collègue Noreen Chai, qui est venue nous aider, est venue aider notre équipe, puisqu'on a tenté d'endormir et on a réussi à endormir un des chimpanzés qui est blessé à la jambe à cause d'un piège. Donc ça, c'est vraiment un travail très très compliqué, parce que donc, ce sont des chimpanzés complètement sauvages, bien sûr, et réussir à trouver le chimpanzé, puis ensuite à l'endormir dans les meilleures conditions et à intervenir au milieu de la forêt, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et de très compliqué.
C'était donc une première pour vous. Comment vous agissez sur le terrain concrètement pour protéger ces chimpanzés?
Alors en fait, on a une équipe de 8 assistants de terrain qui observent les chimpanzés donc toute la journée. Hein. Après le nuit, bien sûr, la journée se poursuit et donc on observe leur comportement. Et puis à côté de ça, on a une équipe de lutte anti-braconnage et de tentatives pour résoudre les conflits donc entre les hommes et les animaux. Et puis une équipe de sensibilisation qui, chaque jour, va à la rencontre, par exemple, des ouvriers du thé qui sont des gens extrêmement démunis, très pauvres, et qui n'ont comme autre recours que bien souvent de piéger donc les antilopes, les cochons dans la forêt. Ils ne mangent pas de chimpanzés, mais les chimpanzés sont les victimes indirectes de ces pièges, donc on leur explique les effets des pièges. et on essaye de trouver des solutions pour pallier à ces problèmes de sécurité alimentaire. Bien sûr, notre équipe enlève les pièges qui se trouvent, les désamorces. On a aussi beaucoup de soucis avec l'activité illégale de coupe d'arbres, en particulier une espèce qui est menacée, les chroniques de canard, qui est utilisée en Europe pour traiter les problèmes de prostate.
Merci, donc, voilà, Sabrina Créer. La liaison devient un petit peu difficile, on a du mal à saisir les derniers mots. En tout cas, je signale qu'on va mettre bien sûr en lien votre association Projet pour la conservation des grands singes sur la page du temps d'un bivouac. Et pour vous là, les prochaines missions, vous rentrez quand de votre mission en Ouganda? Ah, on vous a perdu complètement, Sabrina Krieff. C'est souvent comme ça que ça se passe, les aventures en direct. En tout cas, on vous retrouvera prochainement dans le temps d'un bivouac. Je vous souhaite une belle fin d'expédition. Au revoir, Sabrina Krieff.
Au revoir, merci.
Pierre Josse, en 30 secondes, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, en Ouganda, vous y avez mis les pieds, m'avez-vous dit, oui. Mais alors très très brièvement.
Hein. Oui, j'ai grimpé le mont Elgon, qui est le troisième mont kényan, 4500 mètres, ouais. Et les derniers centaines de mètres, c'est fait en 4-5 heures, et j'ai franchi la frontière ougandaise, ouais. Sur 300 mètres. J'étais accompagné de deux soldats d'ailleurs, parce qu'il y avait des voleurs de bétail ougandais, et la région n'était pas très sûre, donc j'ai fait une encoche de plus à la crosse de mon fusil, hein, comme Buffalo Bill à chaque fois qu'il tue un indien ou un bison, en me mettant un pays de plus, et c'était magnifique. Des vallées remplies de forbes et une végétation exotique absolument sublime, et un sentiment de pérennité totale.
Ouais, 500 mètres en Ouganda. Merci Pierre Josse, je rappelle le titre de votre livre, Chronique vagabonde, chez Hachette. Merci à vous.
Merci David.
Et bonne route.
Les épreuves sont terminées? Y a pas un dragon qui passe par là? Personne à délivrer? Mais c'est la retraite. Passe-moi mes chaussons, maman.
Demain à 16h, nous partirons en balade avec le jardinier philosophe Gilles Clément. Et à 17h, nous partirons sur les traces d'un grand voyageur d'hier, Antoine de Saint-Exupéry.